février dernier, deux cordistes, Thibaut et Katerina, ont travaillé sur la tour Éclat dans le quartier de la Défense, dans des conditions de travail indignes. Matériel non fourni, mesures de sécurité non assurées. Face à ces conditions, ils font valoir leur droit de retrait. Plusieurs mois plus tard, au moment de recevoir leur paye, celle-ci est amputée de nombreuses heures de travail effectuées. Suite à cela, nous avons interviewé Grégory Molina, membre et fondateur des Cordistes en colère, Cordistes solidaires, association qui a suivi et soutenu ces deux travailleurs et travailleuses. Il nous parle des conditions de travail au sein de cette profession qui comptabilise près de 8500 personnes en France. Bonjour Grégory, tu es membre et cofondateur de l'association des Cordistes en colère, Cordistes solidaires. Aujourd'hui je t'appelle parce que j'ai vu sur votre site que vous aviez publié l'histoire de Thibaut et Katerina, deux cordistes qui ont travaillé sur la tour Éclat dans le quartier de la Défense. Et pendant cette mission, ils ont fait valoir leur droit de retrait parce que l'entreprise ne pouvait plus fournir le matériel de sécurité, c'est bien ça?
Oui, c'est vrai.
Et qu'aujourd'hui, ils peinent à être payés pour le travail qu'ils ont effectué?
Oui, complètement. Ouais. Donc, c'est des collègues là, qui nous ont contactés donc, dans le courant de l'été pour une mission qu'ils avaient fait au mois de mai. Et après multiples relances de leur part auprès de leur agence d'intérim, respectives, ils n'arrivaient toujours pas à se faire payer les heures qui leur étaient dues. Et donc, ils ont pris contact avec l'association. Et donc là, on a essayé d'envoyer des courriers aux entreprises de travail temporaire, à l'entreprise utilisatrice, mais aussi après, donc ça a été un succès, ce courrier, la plupart sans réponse. On a aussi sollicité les inspections du travail concernées. Et tout ça pour arriver donc à l'automne, là, en début d'automne, où en gros les situations n'avaient pas énormément bougé, sauf pour Ekaterina, où à force de pression, son agence d'intérim avait accepté de payer ce qui lui était dû. Mais par contre pas pour Thibaut. Et rester néanmoins dans cette situation qui était une équipe de travailleurs cordistes qui travaillaient sur un chantier donc à plus de 220 mètres de haut pour du nettoyage de vitres et avec tout un tas de matériel de protection qui était manquant. Pas de personne pour encadrer le chantier, pas de procédure de secours mise en place. Quand on travaille sur corde, en fait, il y a une disposition essentielle qui est posée dans le code du travail. L'employeur doit faire une note de calcul des points d'ancrage pour s'assurer que les points d'ancrage sont suffisamment résistants, ce qui n'était pas du tout fait. Donc au bout d'un moment, il y avait déjà toutes ces problématiques qui étaient préexistantes sur le chantier. Et il y a aussi, au bout d'un stade du chantier, il y a une personne qui était un prestataire de la société qui apportait toute une partie du matériel pour pallier en fait au fait que l'entreprise qui employait Boé et Katerina ne leur fournissait pas directement. Et lui, ce prestataire a décidé, pour plusieurs raisons, de chantier. Et donc l'ensemble des intérimaires sur chantier se sont retrouvés quasiment sans matériel, en tout cas pour travailler. Donc là, c'est à ce moment-là qu'ils ont fait valoir leur droit de retrait. Et en fait, ça s'est soldé par, en fin de journée, une fin de mission pour l'ensemble des intérimaires. Plutôt que d'apporter des solutions pour résoudre, à enlever le danger grave et imminent qui se présentait à ces salariés, ils ont en quelque sorte été licenciés. Et en plus de ça, au moins pour deux d'entre eux, ils ont au départ, en tout cas la société, par l'intermédiaire de leur agence d'intérim, mais ne payait que 3 heures pour en fait plus de 7 jours de travail effectif. C'est-à-dire bon, pour en quasiment 50 heures de travail, ils ont été payés 3 heures. Donc en gros, c'était une sanction qui ne disait pas son nom pour avoir exercé leur droit de retrait.
Dès l'annonce, de toute façon, il y avait déjà plusieurs problèmes qui étaient notés, notamment le fait qu'il n'y avait pas de pause prévue pendant les 8 heures de travail en continu. Et que le matériel n'était pas fourni. C'était déjà précisé dès le début.
Tout à fait, oui. Mais en fait, ça c'est bon. On a eu confirmation après coup. On n'était pas sûr, même au moment où on a publié l'article, on n'était pas sûr à 100% que l'annonce était bien celle qui avait été diffusée par l'entreprise qui a employé Thibaut et Katerina. Et donc là, on a bien eu confirmation que c'était le cas. Donc dès le mois de février de cette année, il y avait cette annonce qui circulait sur les réseaux et qui avait choqué tous nos collègues, en fait. Hein. On était tous choqués, en fait, de voir ces conditions qui étaient proposées pour travailler. Et donc là, visiblement, pour ce qui est des pauses, en tout cas, les salariés qui étaient sur place, ils n'avaient pas accepté, en fait, de faire des journées continues, en fait, de 8 heures non-stop en suspension sur corde et le long de cette tour de 200 mètres. Donc non, ils avaient des pauses. Ça, c'était les conditions qui étaient demandées initialement à l'ouverture du chantier. Mais en tout cas, arrivé au mois de mai, c'était pas le cas. Les salariés qui étaient sur place avaient justement pas accepté ces conditions-là. Et pour ce qui est du matériel fourni par les intérimaires, c'était encore en partie le cas. Il y avait une partie des intérimaires et une partie de leur matériel qui était leur matériel personnel.
C'est quelque chose de fréquent, ça?
Alors ça, c'est vraiment une pratique qui est visible dans la profession, qui a énormément changé là depuis quelques années, après de multiples batailles qu'on a menées, que les cordistes au sens large ont menées et aussi par l'intermédiaire de l'association. Mais en tout cas, c'était jusqu'à donc il y a en gros 3-4 ans, c'était vraiment c'était quasiment systématique où les employeurs nous imposaient de venir travailler avec notre matériel personnel. En gros, ce qu'on pense, c'est que ça vient en fait des origines de notre métier, c'est pas très vieux. En gros, c'est un métier qui est apparu dans les années 90 principalement, et qui à l'époque était des travaux qui étaient réalisés essentiellement par des guides de haute montagne, des guides PDO, des personnes en fait des professionnels de la d'une pratique sportive de la corde, et qui avaient un statut indépendant et qui hors saison faisaient des extras en fait sur des chantiers pour dépanner, pour solutionner des problèmes sur des chantiers. Et ils avaient ce statut indépendant. Donc c'est des personnes qui disaient qu'ils avaient leur propre matériel, c'était des entrepreneurs qui avaient travaillé sur des chantiers. Et sauf que ça, de cette pratique très très marginale à ses débuts dans les années 90, elle a explosé, en tout cas ça s'est énormément développé dans le BTP, dans tous les secteurs du BTP. Et avec aujourd'hui, c'était la part de l'auto-entrepreneuriat au départ, a été complètement supplanté par l'intérim. Aujourd'hui, on a sur à peu près 10 à 15 000 cordistes estimés en France, on a 70% d'entre eux qui sont sous statut d'intérim. Et donc cette pratique, en fait, et cette pratique du coup qui était issue des auto-entrepreneurs au départ, les employeurs, les patrons, aujourd'hui, ont trouvé avantageux pour eux, en tout cas de la maintenir quoi, et de l'imposer à tous les nouveaux cordistes arrivés sur le marché du travail. Ça s'est perduré comme ça jusque là, donc assez récemment, de manière très majoritaire. Et donc après une multiple bataille, on a réussi à vraiment inverser la chose. Et donc aujourd'hui, il y a encore malheureusement des sociétés qui le pratiquent, mais elles deviennent marginales par rapport à ce que c'était initialement. Quoi.
Comment tu l'expliques que ça passe par l'intérim essentiellement?
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, et avec le peut-être l'une des raisons, une des premières raisons, c'est la définition de notre métier, l'activité en des travaux sur corde, intervenir avec au moyen de corde par le code du travail, ça doit être forcément des travaux temporaires, ça ne peut pas être des travaux permanents. Donc parce que on doit prioriser le fait de travailler avec des échafaudages, des nacelles, c'est-à-dire des moyens de protection collective, qui sont beaucoup plus sécurisants pour les travailleurs au sens large. Donc du coup, forcément, des travaux temporaires, donc des missions courtes. Ça, ajouté au fait que ça reste des travaux spécialisés, donc il n'y a pas suffisamment de travail sur tout le territoire, dans toutes les régions, tous les départements, pour que les sociétés restent à travailler en local. Donc, ça veut dire beaucoup de travail en déplacement, voire en grand déplacement. Et donc, du coup, ça veut dire des missions où, en fait, sans arrêt, il faut traverser la région, traverser la France, pour aller trouver du travail. Et inversement, du point de vue des entreprises, pour recruter, il faut que quand ils ont des chantiers qui demandent plus de salariés que leur habitude, sont obligés d'aller recruter souvent plus loin que leur région. Quoi. Et ce qui fait que ce qui rend difficile en fait d'avoir des équipes pérennes et régulières, en tout cas au niveau des sociétés. Après, là-dessus s'ajoute le fait que le turnover, la flexibilité d'un point de vue du point de vue des patrons, ça reste avantageux. il y a tel jour, pendant telle période, il y a de la demande, il y a des chantiers qui rentrent. Donc on a besoin de faire travailler les intérimaires. Et si du jour au lendemain, les chantiers sont terminés ou sont annulés, ou pour X raisons, il y a des aléas, il y a la flexibilité de l'intérim qui est, et dans la pratique, en fait, se traduit par des quasiment que des contrats à la semaine. Nos contrats sont des contrats à la semaine. Et avec la particularité du coup de l'intérim, donc sur un contrat à la semaine, on a déjà deux jours de période d'essai. Donc du lundi au mardi soir, on est dans la période d'essai, donc le contrat peut être arrêté à n'importe quel moment. Et après, on a deux jours de période de souplesse. Et ça, c'est vraiment la spécificité de l'intérim. Donc sur la fin du contrat, et qui fait qu'en gros, donc pour le jeudi et le vendredi, et ce qui se traduit dans la pratique, où concrètement, quasiment tous les jours de la semaine, on peut nous mettre faire la mission. Donc on n'a aucune protection en termes de dans la durée vis-à-vis de la durée du contrat. Il y a quand même un avantage pour les employeurs. Ça c'est pour le côté employeur, et après pour le côté salarié, c'est aussi plusieurs collègues, on est beaucoup à apprécier aussi cette flexibilité, enfin parfois choisie, ce qui permet en fait de ne pas être bloqué dans une société. Si les conditions de travail ne sont pas acceptables, ben on peut partir plus facilement, et on peut plus facilement aussi choisir, choisir nos missions. Ça nous est permis parce qu'on est aussi dans un secteur qui est où il y a beaucoup plus de demandes que de travailleurs disponibles. Et donc ça, c'est voilà. Il n'y a pas trop aujourd'hui la crainte de se retrouver sans emploi. Même si on a des missions qui peuvent s'arrêter, même si on choisit d'arrêter la mission, on sait qu'on peut relativement facilement trouver du travail. Je dis relativement parce que c'est en train de changer, notamment pour les débutants. Tous les collègues qui rentrent dans le métier, qui débutent dans le métier. Là, pour le coup, il y a un boom dans le développement de la formation, des différentes formations de cordistes, qui font qu'en gros, là, on les chiffre. Donc, entre 1000 à 2000 nouveaux cordistes qui arrivent tous les ans sur le marché du travail. Donc, mis en rapport avec, en gros, les 10 000 estimés au total au niveau national, ça fait que, voilà, on a plus de 10% de débutants qui arrivent tous les ans sur le marché du travail. Et encore, voilà, il y aurait encore une autre manière de le voir si on regarde en termes d'équivalent temps plein, parce que ces 10 000 cordistes ne travaillent pas à l'année, ne travaillent pas en continu toute l'année parce qu'ils sont la plupart en intérim. Donc, ce qui fait que c'est encore plus. Et donc, tous ces nouveaux débutants qui arrivent sur le marché du travail, eux, ils ont pour le coup beaucoup plus de difficultés à se maintenir en poste, et ils sont pour le coup vraiment les plus vulnérables par rapport à la précarité de ces contrats et du métier en général. Et ce qui a été le cas en quelque sorte aussi pour les intérimaires qui travaillaient sur la Tour Eiffel, dont Thibaut et Katharina, qui sont tous les deux, ça fait entre 1 et 2 ans maximum qu'ils nous ont démarré le métier. Et donc ils ont accepté cette mission qui pouvait paraître intéressante. Voilà, travailler sur un building de 220 mètres de haut dans le quartier de la Défense à Paris. En termes d'expérience de travail, ça peut donner envie, mais la réalité était tout autre.
C'est ça, tu disais, il y a un énorme turnover parce que les carrières sont relativement courtes. C'est 5 ans en moyenne?
Il n'y a pas de chiffre précis, mais oui, c'est dit dans la profession. On n'a jamais retrouvé les données exactes, mais en fait, il y avait eu une étude il y a une dizaine d'années, et ça semblerait dire, voilà, on parle de 3 ans, en tout cas, de seuil à franchir, en tout cas dans la profession, pour vraiment rester, pour vraiment avoir une pérennité dans le métier. Et donc, en tout cas, avant ces 3 ans, de 3 premières années d'activité, il y en a énormément, une grande partie de collègues qui arrêtent le métier, quoi. Soit il y en a plein qui ont passé la formation mais qui n'ont même jamais exercé, et d'autres qui font juste acquisition et qui ne renouvellent pas l'expérience, quoi. Pour plein de raisons, hein, parce qu'il y a une survalorisation de ce métier, enfin pas valorisation, mais c'est une image qui est présentée de ce métier qui est mise sur un piédestal, et puis, quand on l'exerce réellement, on se rend compte qu'il y a une autre espace de ce type qui n'est pas l'image d'Épinal qu'on veut bien nous vendre.
Notamment les difficultés à faire valoir vos droits. Comment c'est structuré? C'est une profession qui est récente, tu disais, depuis les années 90. Et est-ce qu'il y a des syndicats? Est-ce que c'est vous, en tant qu'association, qui essayez d'exercer cette fonction-là?
Ben oui, ben en fait, aujourd'hui, en tout cas, et puis, à notre connaissance, en tout cas, enfin, il y a que l'association et un syndicat qui a été créé par des membres de l'association, qui s'appelle le syndicat Solidarité Cordiste, qui existe, mais qui ont une activité syndicale de défense des travailleurs cordistes, à proprement parler, dans la profession. Après, on a des collègues qui sont syndiqués, certains à SUD, certains à la CGT, individuellement, mais il n'y a pas de section, en tout cas dans d'autres syndicats, et il n'en existe pas, et toujours pas, vraiment à proprement parler, pour notre profession. Et c'est par rapport à ce manque, en tout cas, de structuration et de l'outil collectif de défense des salariés, que, entre autres, cette association s'est créée, et qu'on s'est saisi de cet outil, à travers cette structure, on a créer ces outils justement de défense collective pour les travailleurs.
C'est quoi ces outils justement? C'est quoi vos moyens d'action, de pression?
Déjà c'est les BABA. En fait, on est parti de zéro, donc le départ c'était de faire des comprendre la réglementation, tous les points récurrents sur lesquels on était confrontés, sur lesquels on se faisait avoir en termes de rémunération, en termes d'indemnisation des transports, la question du droit de retrait, comprendre concrètement c'est quoi le cadre du droit de retrait, comment on peut l'exercer. Donc tous ces points récurrents auxquels on était confrontés, c'était de faire des fiches pratiques, de les diffuser, de les rendre accessibles au plus grand nombre. Mais après, tout de suite, c'était aussi de mettre en place des permanences téléphoniques, c'est-à-dire en fait être plusieurs de l'association à répondre aux questions des collègues, à les réorienter si on n'avait pas les réponses juridiques, les réorienter vers un cabinet d'avocats qui nous épaule dans nos activités. Et après, quand il y a des conflits avec les employeurs, c'est essayer d'utiliser l'outil, cet outil collectif qui permet de sortir du rapport individuel, du conflit individuel dans l'entreprise. Et souvent, quand on est juste seul à se battre contre son responsable, contre son patron, le rapport il est souvent dissymétrique. Enfin, c'est difficile en tout cas de peser tout ça, quoi. Et le fait, ne serait-ce que d'envoyer un courrier avec l'officiel de l'association, un mail, de faire ces choses, rien que ça, souvent ça débloque des situations. Et après, c'est le fait de, souvent, l'outil principal qu'on a à notre disposition, c'est de rendre public, de communiquer sur les situations, ce qui a été fait là pour l'entreprise Capesta, on a été employé Thibaut et Katerina. Là, pour le coup, c'est une société qu'on était depuis quasiment toujours, en fait, depuis son existence, ça fait 20 ans qu'ils existent. Et depuis toujours, ils sont dans une démarche vraiment de mépris, vraiment de mépris ouvert envers les salariés. Hein. Ils embauchent des gens, mais ils les méprisent. Et ça se ressent à tous les niveaux, ça se ressent dans les documents qu'ils produisent, qui leur sont signés, et de la manière dont ils sont accueillis, de la manière dont on leur parle, la manière le manque de matériel et de considération qu'il y a. Et du coup, il y avait vraiment une nécessité de communiquer sur cette société, et ce qui a permis, là en tout cas pour Thibaut et Katerina, tout de suite, il y a eu un petit peu des choses qu'ils ont eu déjà de petits bouts, toujours pas la totalité de ce qui leur était dû, mais ça a déjà un peu débloqué des choses. Et après, derrière, voilà, on est face à une société qui tient des positions qui ne veut pas bouger, et donc là, ce qu'on est en train d'essayer de construire, c'est d'inciter tous les collègues qui ont suivi des traitements pas acceptables avec cette société, de se regrouper pour faire une action collective au coup d'œil. Pour essayer de faire reconnaître tous ces manquements qui en fait sont vraiment sont réguliers et thématiques dans cette société, et pour essayer d'avoir une condamnation qui, on l'espère, sera dissuasive pour à l'avenir, pour le futur.
Puis j'ai vu aussi qu'ils avaient essayé de faire pression sur les boîtes d'intérim en disant qu'ils voulaient des gens qui allaient rester toute la durée de la mission. Je ne sais plus exactement comment c'était formulé.
Ben oui, tout à fait. Ben, en fait, ils ont... c'est que là, ils s'enfoncent dans une situation où ils sont connus, tous les cordistes qui ont un petit peu d'expérience, ça reconnaître leur pratique, donc du coup, ils ne veulent pas y aller. Du coup, ils ont du mal à recruter. C'est une bonne chose, hein, vu les conditions qu'ils proposent. Mais ils continuent à réussir à recruter, quasiment plus par les agences d'intérim qui sont spécialisées, parce que, heureusement, le refus de leur envoyer des intérimaires, de leur déléguer des cordistes. Mais ils arrivent toujours à trouver des agences d'intérim plus généralistes, qui connaissent pas spécifiquement le métier, et qui recrutent principalement par les bases de données de Pôle emploi. Donc, c'est-à-dire tous les collègues qui sont inscrits à Pôle emploi quand on est inscrit à Pôle emploi, on doit enregistrer un CV, un métier, une activité. Les employeurs y ont accès. Ils peuvent faire des recherches sur ces bases de données. Donc, ils arrivent à contacter les nouveaux cordistes, à les appâter et à réussir à les recruter. Et effectivement, donc on a eu des copies de mails, des copies d'échanges entre l'entreprise cadastrant et les agences d'intérim, où il y a ce genre de propos, oui. Il la demande de leur envoyer des... En gros, je reformule la teneur des propos, mais de leur envoyer des cordistes qui sont dociles et qui vont faire le travail qu'on leur demande de faire et sans trop poser de questions, quoi.
J'ai vu aussi que vous aviez réussi à faire signer une convention à certaines boîtes d'intérim pour ne plus publier d'annonces qui demandent d'apporter son propre matériel.
Ouais, c'était même plus que de ne pas relayer les annonces. Enfin, c'était concrètement de ne plus envoyer aucun intérimaire dans cette société. Les entreprises qui ne fournissent pas tous les ETI nécessaires au travail à réaliser. Quoi. Et ça, c'est un peu l'aboutissement de plusieurs choses qu'on a essayé des coups de pression, des batailles qu'on a menées dans la profession. On avait commencé par envoyer un courrier massivement à toutes les entreprises. On avait récupéré les adresses mail de toutes les sociétés qu'on avait pu trouver au niveau de la France. Et on les a envoyés donc à plus de 800 entreprises. On a envoyé un mail de rappel des obligations, dont l'obligation de fournir les ETI. Et ça, on l'avait mis en copie à chaque fois, en copie aux inspections du travail, là, pour que les entreprises, quand elles l'ont reçu, c'est 800 entreprises qui ont reçu notre mail. Ça, c'était en 2019. Elles savaient que l'inspection du travail avait vu qu'on les avait rappelé, on leur avait alerté que ça c'était une obligation essentielle, et donc ça avait déjà fait un petit peu bouger les choses. Après, derrière, il y avait une vidéo, parce qu'on était sur des collègues étaient sur Marseille notamment, on était allés caméra à l'épaule dans plusieurs agences d'intérim de la ville, poser la question, les questionner justement sur les pratiques, sur le fait que encore à l'époque, la plupart des intérimaires étaient envoyés dans des entreprises où on leur demandait de travailler avec leurs ETI personnels. On avait eu des réponses un peu diverses en fonction des agences d'intérim. Et ça, on avait fait une vidéo qu'on avait diffusée. Donc, pareil, encore une fois, ça faisait exister le problème, ça posait la problématique et ça interpellait d'une différente manière. Et on a continué un peu de cette manière avec des petites actions pour mettre la pression sur ce sujet. Et ça a abouti avec des... On a fini par dire, en tout cas, d'essayer de travailler plutôt avec les agences d'intérim, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une action spécifiquement auprès des agences d'intérim, parce que la problématique de la fourniture des ETI, ça concernait en réalité principalement les intérimaires, parce que les collègues qui étaient embauchés par directement dans les entreprises, eux, globalement, ils avaient du matériel fourni, enfin, heureusement. Et du coup, c'était principalement sur la question de l'intérim qu'il y avait des choses à faire, des choses à jouer. Et plutôt que de mettre la pression sur 800 entreprises de travaux sur corde, entreprises utilisatrices et intérimaires, qui étaient matériellement très difficile, voire impossible, c'était plus facile de mener des actions envers la trentaine, voire quinzaine d'agences d'intérim. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et d'autant plus que, en fait, les sociétés, en fait, elles avaient aussi quelque part un intérêt financier qui est une pratique générale qui change dans la profession, parce qu'elle aussi, du fait que d'envoyer des intérimaires avec leur matériel personnel, c'est tellement abusé que les intérimaires leur demandaient après coup de leur rembourser telle longe, tel descendeur, tel morceau de leur kit de pays. Donc elles avaient tout un budget en fait, qu'elles n'étaient pas censées assumer, mais de fait, elles assumaient une partie du remplacement de ce matériel. Et le fait voilà, de signer cette convention, ben, nous, c'est aussi comme ça qu'on leur a vendu, c'était qu'elles elles auraient plus besoin de débourser cette somme-là, et ce qui nous a, permettait, face aux entreprises utilisatrices, d'avoir un front commun, quoi, enfin, une position nette sur cette question. Quoi. Et ça a globalement marché. On a encore, on a refait un sondage là cette année, et on a une nette évolution. On est vraiment à plus des deux tiers des missions d'intérim qui aujourd'hui, visiblement, sont avec des EPI fournis par l'employeur.
Vous êtes une sacrée victoire quand même. Sur ce sujet, c'est quoi les mesures de sécurité qui doivent être mises en place sur un chantier pour les cordistes?
Bah déjà, faire une analyse des risques. C'est déjà, tout part de là. C'est l'employeur qui a pour responsabilité de lister les choses qui vont être à faire et de voir à quel risque vont être exposés les salariés. Quand c'est dans une entreprise où il y a d'autres activités, si vous avez une co-activité avec d'autres salariés ou une autre partie de production, par exemple quand on va travailler dans une usine, il y a une activité propre à l'usine qui fait une co-activité avec notre intervention d'État, ça doit être aussi étudié avant de démarrer le chantier. Et ça doit être étudié, et en face, ils peuvent décider des moyens de protection adaptés pour se prémunir de ces risques-là. Et ça doit être consigné dans un document, soit plan de prévention, soit PPSPS, plan particulier de sécurité, pour propre, ça c'est propre, ça dépend des chantiers, soit c'est des chantiers vraiment de construction, c'est-à-dire vraiment où il y a ce qu'on appelle des chantiers clos. Mais en tout cas, voilà, il y a ce document de prévention qui doit être systématiquement réalisé et à l'écrit. Et donc après, à partir de là, les mesures de protection et les moyens les moyens adaptés pour se prémunir de ces risques doivent être mis en place. Et là-dedans, après, ce qui est nécessaire aussi, c'est propre en quelque sorte à tous les métiers, mais qui a été réaffirmé en tout cas dans le code du travail, qui est réaffirmé pour ce qui est des travaux sur corde, on doit avoir notamment une supervision des travaux. C'est-à-dire quand on dit supervision des travaux, c'est qu'on doit avoir des personnes qui sont compétentes pour encadrer les travaux et pour encadrer l'équipe, et notamment pour en cas de secours. Parce que quand il y a une spécificité quand on travaille sur corde, on est en suspension dans un harnais, et en cas de malaise, où on se retrouverait inanimé en suspension dans un harnais, il y a un syndrome physiologique qui s'appelle le syndrome du harnais, qui fait que, en gros, ça fait des points de compression, c'est-à-dire des garrots, au niveau du haut des cuisses, au niveau des artères fémorales. Eux, on voit en quelques minutes, en fait, si on reste inanimé en suspension dans un harnais, on peut avoir fait un arrêt cardio-vasculaire. Par rapport à ça, il y a une nécessité de très rapidement, en cas d'accident, en cas de malaise sur corde, de porter secours à une personne et la ramener au sol pour enlever la suspension. Et donc par rapport à ça, donc, il y a un besoin impératif des personnes compétentes, que les travaux soient supervisés, comme le demande le code du travail. Et ça, c'est encore quelque chose qu'on a du mal à avoir sur les chantiers. C'est en train d'évoluer, encore des évolutions au niveau des formations qui existent en France, mais c'est encore loin d'être majoritaire sur les chantiers. Et là, encore une fois, là pour l'exemple de la Tour Eiffel, une des problématiques, c'était qu'on avait une équipe 100% composée à 100% d'intérimaires, et en plus de ça, 100% de débutants et tout juste formés, quoi, et formés au premier niveau de formation, quoi. Et ça, c'est juste pas du tout suffisant pour mener un chantier en toute sécurité. Et c'est des choses qu'on retrouve dans les accidents graves et notamment mortels là qu'on a pu suivre ou qu'on suit encore avec l'association. C'est que assez souvent, on voit dans ces accidents-là, c'est que ces types de profil de composition des équipes, c'est souvent des jeunes collègues qui sortent tout juste de formation. Et ce qui fait que ce qui se traduit pratiquement, ça veut dire que quand on arrive sur chantier, qu'on débute, et qu'on n'a pas encore l'expérience, on n'a pas toutes les compétences pour suffisante. Parfois, on ne sait même pas détecter une situation de danger. C'est même pas le, donc, sans parler de réussir à exercer son droit de retrait, on a vu les complications qu'il peut y avoir quand on fait valoir son droit de retrait, mais déjà en amont, avoir conscience qu'on est en danger, si on n'est pas suffisamment formé, si on n'a pas suffisamment d'expérience, ben souvent on n'est pas en mesure de le savoir. Et du coup, on y va, on fait ce qu'on nous demande de faire et on reste exposé à ce danger jusqu'à parfois un accident. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, bon, c'est propre, c'est ce qu'on retrouve dans notre profession, mais c'est quelque chose qui est valable pour tous les corps de métier. Quand on confie une tâche et qu'on n'est pas, on n'a pas les compétences, on n'a pas les outils pour comprendre ce à quoi on est exposé, ben, on reste vraiment vulnérable et doublement vulnérable parce qu'on est dans le rapport, on est au travail, et au travail, quand on est dans un contrat de travail avec un employeur, c'est un rapport de subordination. Enfin, formellement, le contrat de travail, c'est un rapport de subordination par rapport à son employeur. Et quand l'employeur te dit, tu dois faire ça, ça et ça, si on n'est pas outillé pour savoir qu'on s'expose à un danger, ben juste, on fait ce qu'on nous demande de faire et du coup, on va au casse-pipe, quoi.
Il y a combien de personnes sur ces chantiers? Combien de cordistes, par exemple, là, pour la tour Éclat?
La tour Éclat, ça faisait partie des gros chantiers, c'était en quelque sorte un gros chantier, il était une petite dizaine. C'était une petite dizaine de cordistes. En général, c'est des chantiers de deux personnes. Ça peut pas être moins, ça c'est aussi une obligation, mais ça peut toujours être au moins deux, pour la même chose que j'expliquais avant, cette nécessité de pouvoir se porter secours. Mutuellement. Donc, et souvent, en fait, ouais, c'est des chantiers qu'on fait à 2, 3, 4 personnes. Et souvent des petites interventions. Du coup, c'est très rare. Donc, il y a des fois, ça arrive, c'est des gros chantiers, alors soit en construction, par exemple à Paris, il y a des fois des gros bâtiments qui sont rénovés ou construits. Ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé dans le quartier de la Défense, quand ils avaient construit la salle de concert U-Arena à Paris, ils avaient eu un pic au moment du chantier, on était une centaine de cordistes sur le chantier, mais il y avait 2000 salariés et 2000 ouvriers qui travaillaient sur le chantier, tout corps de métier confondu. Et là-dedans, on était une centaine de cordistes. C'est très rare.
Tu parlais tout à l'heure du droit de retrait. Il y a une crainte pour les cordistes d'être blacklistés par les boîtes d'intérim?
Ben oui, complètement. C'est quelque chose qui peut se gommer quand on commence à avoir de l'expérience, on commence à avoir des contacts, et que du coup on se sent juste intimement rassuré de se dire ah ben non, en fait je saurais, même si je pars de cette mission en mauvais terme et que cet employeur s'amuse à le raconter à quelques autres employeurs, je sais que j'ai encore d'autres plans qui restent fiables et où je continuerai à trouver du travail. Mais toujours pareil, quand on débute dans un métier comme dans celui-là, on ne sait pas, on n'a pas encore ces contacts-là, et du coup il y a cette peur-là que le mot circule, si on conteste un ordre d'employeur, si on refuse de faire ce qu'on demande de faire et qu'on s'en va dans ces conditions, on a peur d'être blacklisté assez largement. Et ça arrive. Et ça arrive ne serait-ce que par le biais des agences d'intérim. Souvent, les employeurs, les entreprises utilisatrices d'emploi des intérimaires, qui sont envoyés par les agences d'intérim, ces entreprises-là, elles demandent si ça se passe mal avec un intérimaire, elles vont dire à l'agence d'intérim, celui-là, tu me l'envoies plus, et s'il te plaît, tu arrêtes de le faire travailler parce que sinon, il faut faire un peu du ménage dans vos lignes d'intérimaires. Et donc ça peut marcher au sein d'une agence d'intérim, formellement. Est-ce que ça se transmet entre différentes agences d'intérim? J'imagine que ça peut se faire de manière très ponctuelle, si les agences d'intérim sont en bonne relation, mais c'est plus difficile. En tout cas, je pense que c'est plus une peur à ce niveau-là, ça va être plus une crainte de notre part en tant que travailleur. Je pense qu'il faut réussir, il faut quand même relativiser, quoi. Mais en tout cas, les employeurs jouent sur cette peur-là.
Dans quelles circonstances on fait appel à des cordistes? Et pourquoi des cordistes plutôt que des nacelles ou des échafaudages?
Légalement, alors après, c'est pas toujours ce qui se fait dans la pratique, mais légalement, on est censé intervenir uniquement quand toutes les autres solutions d'accès par des moyens de protection collective, c'est-à-dire échafaudage, nacelle par exemple, ne sont techniquement pas possibles, ou si le fait d'y avoir recours exposerait à plus de dangers que de travailler sur corde. Et par exemple, on imagine une façade où il y a juste une ampoule à aller changer sur en plein milieu d'une façade de 50 mètres de haut. C'est juste une intervention pour aller changer une ampoule. Ça sera en termes de temps d'exposition avec des équipements de protection individuelle que sont nos cordes et notre harnais. Il y aura moins de temps d'exposition dans le fait d'installer des cordes, de descendre, changer l'ampoule et de replier le chantier, que de monter un échafaudage sur 50 mètres de haut pour accéder à cette ampoule, et qui va mobiliser, pour monter l'échafaudage, ça va mobiliser des monteurs d'échafaudage qui, eux, vont aussi travailler avec des moyens de protection contre les chutes de hauteur, avec des harnais aussi, pas en suspension sur corde, mais quand même exposés au vide. Et donc, il y a plus d'exposition au risque en comparant de cette manière les moyens d'accès ça rendra possible le fait de travailler sur corde, légalement. Ça, c'est vraiment le principe du code du travail. Après, dans la pratique, vu que c'est plus rapide et plus souple de travailler sur corde, c'est plus facile à mettre en œuvre que de monter un échafaudage ou de ramener une nacelle qui a un coût dans la journée en termes de location. Souvent, donc, vu que c'est plus rapide, plus souple et souvent, du coup, moins cher, de plus en plus, il y a des donneurs d'ordre, des maîtres d'ouvrage qui font appel à des travaux sur corde, qui ont recours à des travaux sur corde. Et souvent, de manière injustifiée par rapport à la définition du code du travail. Par exemple, ça a été quelque chose qui a été tranché, qui a été jugé par la Cour d'appel de Nîmes, parce qu'en 2018, on a un collègue qui est décédé, qui a fait une chute sur un chantier derrière la gare de Nîmes. Et ce qui a été après enquête de l'inspection du travail de la police sur place, ce qui est ressorti, c'est que l'entreprise qui gérait le chantier, elle a été jugée, elle a été condamnée sur le fait d'avoir eu recours à une entreprise de travaux sur corde, alors que des échafaudages, et notamment une nacelle, auraient pu être mis en place pour faire les travaux. Et ça a été un cas, en tout cas, de reconnaissance par le tribunal, et qui a causé la mort du collègue.
Eh bien, merci pour toutes ces réponses, Grégory. Bonne fin de journée à toi.